La première,
9h-10h,
l'histoire continue,
Bertrand N., Hélène Maquet.
Après les vicissitudes, le jour se lève à nouveau pour l'Amérique, c'est ça Reagan, et l'effet est prodigieux.
Le point
est,
ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good.
Greed is good, la cupidité est bonne. Ainsi parle Gordon Gekko, le financier sans scrupules, filmé par Oliver Stone dans son film Wall Street en 1987.
1987, c'est aussi l'année du pire crash de la bourse de New York depuis 1929. 500 milliards de dollars s'évaporent en une journée.
Les années 80 sont pourtant celles de l'euphorie pour Wall Street. L'économie américaine repart et les financiers sont aux premières loges.
C'est la décennie de la renaissance de l'Amérique, vantée par Ronald Reagan.
C'est la décennie d'un renouveau du libéralisme économique, le néolibéralisme, qui ne nous a jamais quittés depuis. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Histoire continue.
Plongez donc aujourd'hui à Wall Street, dans ces années 80 qui ont vu la bourse américaine s'imposer comme un acteur majeur central de l'économie, statut qu'elle a d'ailleurs toujours un peu aujourd'hui. Une décennie d'euphorie, de démesure, de renaissance avec une progression constante de la capitalisation des principales sociétés américaines. Une décennie d'abus aussi. Parfois avec des financiers devenus un peu les rois du monde et qui s'enrichissent en jouant avec les règles. Une décennie qu'a capté avec succès Oliver Stone dans son film Wall Street, devenu un film culte.
Les années 80, une décennie pivot où l'économie américaine et européenne ont pris un tournant après les interventions de l'État dans les années 70 pour faire face aux crises du pétrole et à la fin des Trente Glorieuses, c'est la montée en puissance des marchés, du marché libre, poussé par Margaret Thatcher en Angleterre, Ronald Reagan aux États-Unis. L'euphorie de Wall Street dans les années 80 est le symbole d'un renouveau du capitalisme américain et d'une vision de l'économie qui reste encore aujourd'hui la vision dominante malgré la crise de 2008.
On a donc décidé de raconter cette histoire qui a vu la finance, les bourses et donc en particulier Wall Street devenir des acteurs majeurs de l'économie. On reviendra aussi sur les idées qui sous-tendent cette évolution, ces idées souvent qualifiées de néolibérales. On va essayer de déplier ce mot qui, dans les années 80, se sont imposées un peu partout, mais donc surtout aux États-Unis.
Alors avec nous pour en parler, un historien de l'économie, Kenneth Bertrams, professeur à l'ULB. Bonjour.
Bonjour.
Alors quand on est historien de l'économie, les années 80, c'est une décennie qu'on étudie beaucoup.
Alors, pas du tout, en fait. Je vous le dis avec beaucoup de franchise parce que on est encore dans le temps un peu trop récent. Mais je dois bien dire que les étudiants en particulier se rendent bien compte qu'on voit là peut-être naître d'autres types de matrices et de logiciels, comme on dirait, en matière de réflexion financière et économique. Donc on commence à s'y intéresser. La production scientifique, elle, a bien anticipé. Hein. Il y a beaucoup de travaux là-dessus. Mais on l'enseigne encore avec un petit peu de réticence.
Avec nous également Isabelle Ferreras. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes sociologue, vous êtes chercheuse à l'UCL et à Harvard et vous venez de publier un roman graphique intitulé « Et patron pour une révolution dans l'entreprise ». Dans ce livre, vous revenez notamment sur l'entreprise, mais vous revenez aussi sur l'histoire qui a conduit le capitalisme à triompher. Est-ce que les années 80, c'est une décennie de nouveaux départs pour le capitalisme ?
Alors, vous dire d'abord que ce livre, c'est un livre qu'on a écrit à 13. Donc,
collectif.
C'est un livre collectif. Ouais. Effectivement, je ne suis pas du tout la seule. Mais c'est vrai que j'ai porté ce livre avec des artistes et des spécialistes scientifiques qui sont tous mobilisés autour de, effectivement, cette question de l'entreprise. Oui, je pense que les années 80, elles vont sanctionner, en fait, la montée en puissance d'une compréhension du monde qui, en fait, se met petit à petit en place à partir de la sortie de la Deuxième Guerre mondiale.
Et comment cette compréhension du monde aura finalement impacté l'économie et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette émission. On se plonge tout de suite dans nos archives. On part vers le tourbillon de Wall Street dans les années 80.
Le 1er janvier 1985. Ivan Bouski contemple le sud de Manhattan depuis la fenêtre de son bureau. Le quartier des finances s'étale au bord de l'Hudson, frénétique, dès l'ouverture des marchés à 9h. En bras de chemise, Ivan Bouski écrase un cigare, un cubain, dans un cendrier de cristal. Derrière lui, une dizaine d'écrans verdâtres où défile lentement une litanie de chiffres et de lettres. Trois lettres pour une société cotée à Wall Street, deux chiffres pour le cours de bourse. Ivan Bouski saisit l'un des nombreux téléphones qui trônent sur son bureau à cajou. Il passe des ordres de vente, de titres, il achète des actions, il brasse des millions de dollars tous les jours.
Ivan Bouski, dit Ivan le Terrible, l'arbitragiste le plus extraordinaire du monde. Son métier, le risque. Il prend des paris sur la valeur des sociétés cotées en bourse. Il orchestre les méga-fusions d'entreprises.
Silhouette longiligne, vaste sourire qui découvre toutes ses dents, cheveux argent, Ivan Bouski règne sur Wall Street. Son surnom, Ivan le Terrible. C'est une star de la finance. Depuis quelques années, il jongle avec les junk bonds, littéralement, des obligations pourries. Depuis son bureau, il lance des OPA sur des entreprises en difficulté. Il achète des sociétés pour les démanteler ou les fusionner, empochant au passage de gigantesques plus-values. En ce milieu des années 80, Ivan Bouski voit au-delà des six chiffres, ceux du million de dollars. Il voit en neuf chiffres, en milliards de dollars.
J'ose dire qu'il n'y a pas de somme tellement élevée que nous ne puissions la réunir pour une opération d'acquisition de société de Reading. Le chiffre de 10 milliards n'est pas exagéré.
Des milliards de dollars dans les yeux, Ivan Bouski téléphone en ce janvier 85 à David Levine, un broker de la banque d'affaires Drexel Burnham Lambert, lié à la BBL, la banque belge Bruxelles Lambert. David Levine a un tuyau, une information confidentielle sur une future fusion d'entreprise. American Natural Resources va être racheté par Coastal Corporation. Le cours va monter inéluctablement. Il faut donc acheter. Cela s'appelle un délit d'initié. Un acte illégal qui va lui faire gagner beaucoup, beaucoup d'argent. David Levine se rue dans une cabine téléphonique pour ne pas être repéré.
Il téléphone d'une cabine publique. Son nom d'emprunt, Monsieur Diamant. Il achète par sa banque des Bahamas 145 000 actions à 50 dollars. 15 jours plus tard, ces mêmes actions valent 60 dollars. Il a fait 6 millions de dollars de bénéfices illégaux.
Mais malgré toutes ces précautions, David Levine est repéré par les gendarmes du marché, la SEC. Il livre le nom de ses complices, dont Ivan Bouski. Leur arrestation fait les gros titres, des stars de la finance derrière les barreaux. Ce n'est pas tous les jours. À Hollywood, cela donne même une idée au réalisateur Oliver Stone. Deux ans plus tard, sort son film, Wall Street.
From the director of Platoon, Wall Street.
The stock is plummeting.
When it hits 18, buy it all.
Something big is going down.
Michael Douglas reprend le rôle d'Ivan Bouski. Il reprend aussi une de ses phrases les plus célèbres.
The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of evolutionary spirit.
Greed is good. La cupidité ou l'avidité est bonne, dit Michael Douglas, alias Gordon Gekko. La phrase a été réellement prononcée par Ivan Bousky, dont il s'inspire, dans une conférence. Oliver Stone la reprend et l'intègre dans un discours qui saisit l'air du temps, l'air de Wall Street dans ces années 80. Le film dénonce l'euphorie et la montée en puissance de la finance. Dans la version française, le mot « greed » est d'ailleurs bien mal traduit par le mot « faim » plutôt que « cupidité ». Mais qu'importe, le monologue de Gordon Gekko dans Wall Street est resté mythique.
Je pense qu'il ne s'agit pas ici de tenir des discours fantaisistes, mais de parler des réalités économico-politiques. L'Amérique est maintenant devenue une puissance de deuxième ordre. Le déficit commercial et plus encore fiscal a mis notre pays plus bas que terre. À l'époque du libre-marché, quand l'Amérique était la première puissance industrielle du monde, les entrepreneurs devaient rendre compte à leurs actionnaires. Les Carnegie, les Rockefeller, des hommes qui ont bâti ce gigantesque empire industriel, se pliaient à cette règle parce que c'était leur propre fortune qui était en jeu. Aujourd'hui, vos administrateurs ne risquent pas un seul dollar dans la société. Certains m'accusent de voracité. Eh bien, la voracité, mais je dirais plutôt la faim, est utile. La faim est bonne. La faim est un moteur. La faim clarifie les problèmes. Elle décèle et s'imprègne de l'essence même, de l'évolution de l'esprit. La faim, sous toutes ses formes. Oui, la faim de la vie, de l'amour, de l'argent, de la connaissance a marqué chaque pas en avant de l'humanité. Et la faim, notez bien mes paroles, va non seulement sauver Teldar Pepper, mais aussi cette belle société si mal gérée que sont les États-Unis. Je vous remercie.
Le film d'Oliver Stone sort en 1987. À la fin de l'année, Ivan Bousky est alors en prison. C'est depuis sa cellule qu'il regarde les nouvelles du lundi 19 octobre.
Mesdames et messieurs, bonsoir. 565 milliards de dollars se sont volatilisés hier dans l'effondrement de Wall Street. Vous imaginez, 565 milliards de dollars de transactions, un record, la plus forte chute des cours de bourse de l'histoire en quelques heures qui ont ébranlé les marchés financiers de toute la planète.
La bourse de New York s'effondre. Le lundi 19 octobre devient le lundi noir, le Black Monday. C'est la plus grosse baisse boursière de l'histoire des États-Unis. Après 5 années d'euphorie, la bourse tout entière semble devenue comme une bulle qui éclate. La correction est violente et les pertes colossales.
En quelques heures, les agents de change débordés voient l'index Dow Jones dégringoler de 508 points. Une perte de 22,6%. 22,6%, c'est le double de la baisse du jeudi noir de 1929. La perte théorique du papier ce lundi noir est de 500 milliards de dollars, le produit national brut de la France, ce que produit la France en un an. Le lendemain, toutes les bourses du monde suivent. Tokyo, Hong Kong, Londres, Zurich. Dans la quinzaine qui suit, ce sont des mouvements en dents de scie, rachat dans l'euphorie, puis nouvelle panique. Mais la confiance est cassée. Une correction terrible à 5 ans d'euphorie. Les ours sont de retour et vainqueurs sur les taureaux.
$500 milliards de pertes. Il faudra 2 ans à la bourse pour revenir à son niveau de 1987. La contagion à l'économie est moins importante cependant que lors du crash de 1929 ou celui de 2008 où la récession avait été mondiale. Mais le crash de 87 marque un tournant de l'économie, celui de la financiarisation, c'est-à-dire la montée en puissance de la finance. Cette montée en puissance a été permise, entre autres, par un autre tournant, pris celui-là 7 ans plus tôt par l'Amérique.
Well, Reagan is our projected winner, Ronald Wilson Reagan of California, a sports announcer, a film actor, a governor of California, is our projected winner.
Ronald Reagan arrive au pouvoir et avec lui un programme inspiré par Milton Friedman, économiste récemment décoré du prix Nobel d'économie. Reagan applique les recettes de Friedman, moins de dépenses publiques, moins d'impôts pour les plus riches, moins de règles, en particulier pour la finance. Le premier discours de l'État de l'Union de Ronald Reagan en 1981 donne le ton de cette décennie à venir. La politique économique n'est d'ailleurs pas présentée comme une politique, mais comme un médicament qui doit guérir d'une maladie. A full and comprehensive effort to clean up
our economic mess. En raison de l'ampleur de notre maladie économique, nous savons que le remède ne viendra pas rapidement et que même avec nos mesures, les progrès se compteront en centimètres et en mètres et pas en kilomètres. Mais ne pas agir le fera retarder plus longtemps et plus douloureusement. Le remède doit venir. Et ce remède commence avec le budget fédéral. Les mesures prises par le Congrès détermineront comment nous répondrons au message des électeurs. Et celui-ci était très simple. Notre gouvernement est trop gros et dépense trop.
Ronald Reagan va bien appliquer une partie de ces promesses-là. Baisse des taxes, dérégulation, mais la dépense publique, elle, ne va pas diminuer. Bien au contraire. Même si des politiques publiques sont supprimées, les dépenses militaires augmentent. La dette se creuse à un rythme effréné. Les États-Unis s'endettent pour se relancer, et ça marche. Après les deux crises pétrolières des années 70, la confiance revient, et la croissance avec. Vu d'Europe, où l'horizon est à l'austérité et au désendettement à tout prix, cette reprise est exceptionnelle. Même la RTBF semble s'extasier devant la réussite de Ronald Reagan.
Après les vicissitudes, les turpitudes de la guerre du Vietnam, du Watergate de Nixon ou de la sinistrose de Carter, le jour se lève à nouveau pour l'Amérique, c'est ça Reagan, et l'effet est prodigieux. Voyez cela.
It's morning again in America. Today, more men and women will go to work than ever before in our country's history. And with inflation at less than half of what it was just 4 years ago, they can look forward with confidence to the future.
Miracle, renaissance, les qualificatifs évoquent une forme d'admiration pour la réussite des États-Unis.
Pour les États-Unis, le présent, c'est la création de 6 millions d'emplois en 1984. L'avenir, c'est une croissance nouvelle qui s'appuie sur des produits nouveaux comme les micro-ordinateurs qui pourraient assurer une avance décisive aux petites et moyennes entreprises de Silicon Valley pendant que l'Europe risque de rater la troisième révolution technologique.
Si on doit donner un seul chiffre peut-être pour comprendre ce qui se passe aux États-Unis et pourquoi il y a croissance, je donne toujours celui-là. 600 000 entreprises nouvelles chaque année aux États-Unis. Je crois que c'est là, c'est dans la création d'entreprises, très souvent par des jeunes, très souvent par des étudiants donc, qui croient à l'entreprise, qu'il faut comprendre le système américain. Alors le dollar est le reflet, si vous voulez, de cette renaissance et en même temps, alors en contrepartie, le dollar est le reflet de nos propres difficultés. C'est parce que nous, Européens, nous n'avons pas tellement confiance, finalement, dans la sécurité de l'Europe, sécurité économique, sécurité politique, sécurité militaire, que nous sommes tentés d'investir dans un pays qui incarne la sécurité et qui incarne un certain optimisme économique.
Ce reportage, diffusé en 1984 dans l'émission « À suivre », montre bien comment l'Amérique de Reagan diffuse jusqu'en Europe un modèle économique et politique, celui d'un nouveau libéralisme, ce qu'on appellera de plus en plus le néolibéralisme. Moins d'État, moins de règles, plus de liberté pour les entreprises. Les individus sont invités à se prendre en main, à oser, à prendre des risques.
Moi, je pense que les Américains sont capables de faire de si belles performances en matière économique parce que l'Américain, contrairement à l'Européen, il est moins protégé et il est moins taxé que l'Européen. Or, je pense, quant à moi, que les deux grands motifs qui poussent l'individu au risque, qui le poussent à créer une nouvelle entreprise, à la recherche, à la découverte, eh bien, je crois que les deux grands motifs sont d'une part la peur et d'autre part l'ambition. Mais en Europe, si vous voulez, les gens ont peu peur parce qu'ils sont protégés. Ils sont très protégés. Donc, ils ne sont pas obligés de se battre pour s'assurer. C'est l'État. Nous croyons que c'est l'État qui nous assure, qui nous protège. Et ils n'ont pas non plus ambition en Europe, l'Européen. Pourquoi ? Parce que la taxation est trop élevée.
Le récit de renaissance économique, politique et morale qu'est parvenu à écrire Ronald Reagan sera à peine écorné par le crash de Wall Street de 1987. Quant à Ivan Bouski, il passe 2 ans en prison après avoir collaboré avec la justice et livré le nom de nombreux complices. Comme l'écrit le journal Le Monde en 1987, l'affaire Bouski a confirmé ce que certains soupçonnaient depuis longtemps. La fièvre boursière, telle qu'elle a été vécue à New York depuis 5 ans, reposait en partie sur un bluff.
La première,
l'histoire continue.
Hélène Maquet, Bertrand N.
On revient donc sur cette fièvre de Wall Street dans les années 80. On va peut-être commencer par vous, l'historien de l'économie, Kenneth Bertrams. C'est une fièvre, mais c'est le début d'une fièvre, parce que malgré ce crash de 87, la bourse américaine dans les années 90, dans les années 2000, jusqu'à la crise de 2008, elle va continuer formidablement à grandir et à croître.
Oui, et en ce sens, le moment Reagan a clairement fait bouger les lignes. Ça, c'est sûr qu'il y a eu, à partir du premier mandat, je distinguerai les deux mandats, hein, donc 80-84 et puis 84-88. Le premier mandat était un mandat extrêmement difficile. Pour Ronald Reagan, il le dit lui-même hein, dans son annonce, ça va prendre du temps, il hérite d'une décennie très compliquée où coexistent deux éléments qu'on avait dissociés souvent, c'est-à-dire d'un côté le chômage important et de l'autre côté l'inflation très oui. importante à 2 chiffres aux États-Unis, alors qu'elle est même bien plus importante encore ailleurs. En Europe, en Grande-Bretagne notamment, l'inflation monte jusqu'à 22% hein, à l'époque de Margaret Thatcher, fin des années 70. Bref, donc 2 phénomènes. Et il y a un personnage très important qu'il faudrait citer ici, c'est le patron de la Réserve fédérale américaine, Paul Volcker. Volcker, que fait-il ? Il fait une augmentation, finalement, des taux d'intérêt. C'est ce qu'on fait aujourd'hui aussi.
Hein. Oui, bon. Ça ressemble un peu...
Exactement, il y a pas mal d'analogies. Alors, pour aller très vite, parce que voilà, ce qui se passe, c'est que, en fait, ça ne fait qu'augmenter les problèmes. On voit que l'inflation continue, que le chômage augmente. Et surtout, on assiste à quoi ? Une baisse vraiment très importante, et je crois que c'est le lien qui est fondamental ici, dans tout ce qu'on appellerait les taux d'investissement. Et donc, on voit de manière assez rapide un taux d'investissement qui diminue, et donc un phénomène de désindustrialisation qui précipite le chômage aussi. Bref, tout ça fait que pendant vraiment 2-3 ans, ça ne s'annonce pas très bien en fait hein, pour Reagan. Il y a un mouvement clairement qui va changer, et ça c'est tout ce qui est porté par à la fois une baisse des impôts très très importante, la fameuse loi Kemp-Roth qui va intervenir en 80-82, et d'autre part aussi, et vous l'avez dit, c'est ce récit. Ce récit, il le dit lui-même, « market is magic ». Donc c'est le marché qui va nous sauver de là. Et la notion de marché, qui est chère à Isabelle Ferrer également, c'est vraiment une notion qui va être reprise par Reagan pour vraiment mettre en place un nouveau logiciel. C'est un vieux terme, hein, le marché. Mais il va lui donner une consonance tout à fait différente et faire du marché, finalement, une sorte de deus ex machina qui va s'abstraire de plus en plus. Ça va être une abstraction, mais très réelle, quelque part, pour la plupart des investisseurs. Et on va entrer dans cette ère de la financiarisation. Et donc, c'est très lentement qu'on assiste, à partir de 84, également, en effet, à une reprise en main d'une dimension beaucoup plus financiarisée de l'économie américaine. Après, j'insiste, hein, 3-4 années extrêmement difficiles. Quand on parle de miracle aux États-Unis, on peut se demander si aujourd'hui, le vrai miracle, c'est pas la réélection de Reagan en 83. Parce que là, franchement...
Et il a très bien été réélu, hein, presque dans tous les États, y compris la Californie, etc. C'est un raz-de-marée.
Alors ça, il y a un côté communication qu'on a encore aujourd'hui et qui rappelle d'autres présidents par la suite aux États-Unis. Oui, tout à fait.
Isabelle Ferrara, je rappelle que vous êtes chercheuse à l'UC Louvain et à Harvard, sociologue. Kenneth Bertrams dit à l'instant financiarisation de l'économie. C'est quelque chose qui arrive au début des années 80. En même temps, depuis 1929, on sait que la bourse, les marchés financiers jouent un rôle majeur dans l'économie capitaliste. Pourquoi est-ce qu'on dit financiarisation à ce moment-là ? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ?
Ça veut dire que donc les marchés financiers vont prendre une importance croissante dans l'économie. Et concrètement, ça veut dire qu'ils vont être utilisé comme un outil de disciplinarisation, on pourrait dire, pour discipliner qui ? Les entreprises. Et donc, on va voir à partir de ce moment-là, et c'est pour ça que c'est vraiment une bifurcation dans notre histoire, je pense, économique et sociale, on va voir cette idée que le marché financier, c'est le bon étalon de mesure. De la santé d'une entreprise, de l'intérêt d'y investir pour un...
Mais ça veut dire que c'est plus l'entreprise en tant que telle qui est importante, c'est la valeur de l'entreprise ?
Oui, et ça rentre en résonance, bien sûr, sa valeur financière, mais ça, c'est sa valeur pour celui qui apporte du capital. Mmh. Et ça rentre en résonance avec ce qu'on a convoqué, là, dans ce qu'on a entendu. C'est cette théorie que Milton Friedman a mis sur pied, et il a écrit un op-ed, une colonne dans le New York Times en 1970 qui marque donc toute cette époque qui va suivre, où il dit que la responsabilité des entreprises, c'est d'augmenter leurs profits. Et quand il dit ça, il dit pas seulement la responsabilité de l'entreprise, c'est de faire du profit. Il dit, c'est la seule responsabilité de l'entreprise. Mmh. Il ne faut pas se préoccuper d'autre chose. Si on est un homme d'affaires éthique, on doit se préoccuper d'une et d'une seule chose, les profits, le retour sur investissement pour le capital.
Oui, et alors c'est intéressant que Ronald Reagan, Kenneth Bertrams, ils s'entourent notamment, il n'y a pas que lui, mais c'est la figure la plus marquante, de Milton Friedman comme conseiller économique, et ils vont faire des interviews ensemble, ça va vraiment être une figure importante de l'économie de ces années 80. Qu'est-ce qu'il dit de nouveau, Milton Friedman, par rapport au discours des économistes libéraux ? Pourquoi est-ce qu'on parle à ce moment-là de néolibéralisme ? Qu'est-ce qu'il a de nouveau ?
Alors, là, c'est une grande question.
Ben oui.
Milton Friedman n'est pas le seul à entourer Ronald Reagan. D'ailleurs, les historiens de l'économie sont très prudents sur les conseillers économiques et financiers de Reagan, et ils sont très sceptiques de le voir comme un bloc, cette politique économique de Reagan.
Quand on gratte, c'est beaucoup plus compliqué.
Mais bon, c'est pas la question. Vous avez raison de dire que Milton Friedman est un acteur très important. Alors, son monétarisme, puisque on l'associe avec cette idée-là, c'est vraiment l'idée de dire que l'augmentation des prix est presque intrinsèquement liée à la présence et au volume de monnaie dans les circuits. Donc on a une sorte de théorie quantitative de la monnaie qui existe depuis très très longtemps et qui explique finalement que l'inflation, c'est tout simplement directement causée par la présence importante de volume monétaire. Et donc pour essayer justement de réduire l'inflation, on a toute une série d'outils possibles, mais la première chose à faire, très clairement, c'est faire en sorte que par des systèmes fiscaux adaptés et ajustés, et en fait, finalement, très incitant pour les plus riches, on puisse faire en sorte qu'il y ait des niches et on puisse faire en sorte qu'il y ait une possibilité d'utiliser aussi cette présence monétaire. Parce qu'on oublie de dire qu'aux États-Unis, il y a tout d'un coup un rapatriement des capitaux qui va se faire aussi au niveau international.
Oui.
Donc le vrai acteur, encore une fois, Paul Volcker, qui est le patron de la Fed, va être lui aussi à l'écoute de Milton Friedman et va garder ses taux d'intérêt très élevés. Donc on va avoir un transfert de capitaux, non seulement au niveau domestique, mais au niveau mondial aussi. Quelqu'un le disait dans le reportage qu'on a écouté, on a vraiment ce transfert vers le dollar, puisqu'il y a cette impression vraiment de retour sur investissement, si je puis dire, financier. Oui. Et donc là, pendant des années, ça va vraiment faire en sorte que les États-Unis vont être vus comme une place forte de l'économie mondiale, même si, effectivement, en matière industrielle, en matière de déficit, ça ne marche pas très bien.
Ah oui, les États-Unis s'endettent, et les ménages aussi, beaucoup s'endettent aux
Exactement.
États-Unis, mais ça relance quand même la machine et la confiance.
C'est vrai,
et c'est là qu'on voit que le capitalisme est basé sur la confiance aussi. Isabelle Ferreras, là-dessus, sur l'arrivée, je veux dire, même médiatique, de ces intellectuels que l'on dit néolibéraux. Mais j'aimerais revenir sur ce mot néolibéralisme qui, surtout dans les années 80, semble fleurir comme des colchic dans les prés. D'où ça vient ? Est-ce que c'est à ce moment-là que ça a été inventé ? Est-ce que ça vient de plus loin ?
Alors, on pourrait parler de la société du Mont Pèlerin.
Ah oui.
Parce que je pense que c'est maintenant que c'est pertinent d'en parler.
Vous en parlez beaucoup dans votre livre.
Oui, effectivement. Voilà. On en parle beaucoup dans le livre, qui est un livre, je le redis, collectif, et qui est un livre que l'on a essayé de rendre très drôle. Ce sont des sujets qui ne sont pas très faciles et qui peuvent endormir certains, mais en fait qui sont d'une importance capitale. Et on essaye de, effectivement, traduire toute cette histoire dans des termes qui sont concrets, qui sont drôles, qui sont plein d'humour et d'échanges entre les chercheurs. Et justement, on se penche sur cette histoire de la Société du Mont-Pèlerin. Parce que la Société du Mont-Pèlerin, c'est un groupe d'intellectuels qui, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, sont aujourd'hui, enfin, dans l'histoire des idées, on les pointe comme en fait les pères du néolibéralisme. Pourquoi ? Parce que donc, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, quelqu'un comme Milton Friedman, mais comme Frédéric Hayek, comme toute série de gens qui vont en fait recevoir le prix Nobel d'économie 30 années plus tard, un prix Nobel en fait qu'ils auront eux-mêmes créé, parce que, comme le savent de plus en plus de gens, le prix Nobel en économie n'est pas un prix Nobel, c'est le prix de la Banque de Suède qui est décerné à un économiste. Et justement, la Société du Mont-Pèlerin a très bien pris les choses en main, c'est-à-dire qu'ils étaient préoccupés par un enjeu fondamental dans lequel, je pense, on peut se retrouver aujourd'hui. Et ils ont trouvé la manière de faire passer leur message et avoir une influence considérable dans les cercles académiques, avec création de prix Nobel, et puis dans les cercles politiques, avec l'influence sur Thatcher et Reagan. Et qu'est-ce qui les préoccupait ? Ce qui les préoccupait, c'était de sauver la liberté, si on veut le dire en une fois. C'est-à-dire qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, ils se rendent compte qu'à l'Est, on a la menace du totalitarisme communiste. Et à l'Ouest, on a des démocraties libérales, certes, mais qui, pour eux, sont beaucoup trop prises par l'importance de l'État. L'État prend trop de place, puisqu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, la théorie économique qui tient le haut du pavé, c'est Keynes. Et c'est l'idée que l'État doit intervenir, c'est sa responsabilité, parce que l'État, c'est notre instrument collectif, en fait, pour nous gouverner en tant que société. Et quand on veut se redresser, évidemment, du désastre qu'a été la Seconde Guerre mondiale, on ne peut pas faire mieux que se dire on va se donner les moyens collectivement. Et eux, ils sont très préoccupés parce qu'ils disent oui, mais ça représente effectivement la possibilité d'une menace à nouveau sur nos libertés, parce que l'État a toujours, et donc il y a une vision, en fait, il y a un soupçon qui est toujours porté sur l'État. L'État porte en lui le germe du totalitarisme. Et ce que nous discutons dans le livre, parce que c'est vraiment une discussion aussi, parce qu'évidemment les chercheurs ne sont pas tous d'accord, il y a, quand on rentre dans la finesse, évidemment, des positions des uns et des autres, tout ça est toujours plus compliqué. Mais ce que nous discutons, c'est justement comment, finalement, cette société du Mont-Pèlerin s'est fourvoyée, parce qu'elle a cru que pour sauver la liberté, il fallait faire moins d'État et plus de marché, alors que maintenant, nous avons l'expérience contrefactuelle, si vous voulez, devant nous, quand on donne les mains libres au marché, entre parenthèses, les marchés qui sont structurés par l'État, parce qu'il n'y a pas un marché qui existe tout seul. Donc l'État est quand même toujours là derrière. Mais quand l'État est au service des marchés, eh bien en fait, on ne sauve pas la liberté. Et aujourd'hui, c'est là, enfin, je ne veux pas anticiper, mais évidemment, on va déboucher sur la mondialisation et la montée en puissance d'acteurs transnationaux, économiques, financiarisés, qui vont prendre le dessus sur le pouvoir de notre vie.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est ce que vous expliquez. D'un point de vue libéral, néolibéral, l'État doit en faire le moins possible, ne pas trop taxer, ne pas trop s'endetter. Or, Kenneth Bertram, on l'a entendu, Ronald Reagan, il va plutôt endetter le pays. Est-ce qu'il a vraiment alors été libéral ? Est-ce qu'il a vraiment été néolibéral ? Au-delà des discours, parce que c'est vrai que quand on entend le discours de Reagan, ça résonne très fort avec ce que vient de nous dire Isabelle
Ferreira. Vous avez tout à fait raison. Il y a une déconnexion totale entre les actes et le discours chez Ronald Reagan. C'est sa magie aussi à lui. je trouve qu'il y a une composante très importante de la société du Mont-Pèlerin qu'on a souvent passé sous silence à côté d'Hayek et de Milton Friedman. Ce sont les ordolibéralistes allemands. Et les ordolibéralistes allemands, que disent-ils ? En gros, on ne va pas faire l'histoire économique, la pensée économique, mais ils disent il faut quand même que l'État soit là.
Il faut ordonner.
L'État comme, entre guillemets, qui pose le cadre. Et ça coinçait un peu quand même avec Friedman et von Hayek sur ce point-là. Mais au final, cette dimension de l'État petit mais présent pour activer les choses et mettre en place le plus possible de marché pour organiser les choses, ça c'est vraiment clairement Reagan qui l'a fait. Je tiens d'ailleurs à signaler que ce qui va se passer dans la seconde moitié des années 80, où on voit en effet la Silicon Valley et les technologies, l'information qui vont en effet prendre de plus en plus d'ascendant, ça se fait en grande partie avec des subsides d'État. Le département de la défense qui va arroser tout le monde. Alors ça se fait aux États-Unis. À un moment où on dit « Ah non, mais ce ne sont pas les États qui financent les industries. » Pas du tout. On voit très très bien que là, il y a un transfert massif en matière d'investissement et donc d'endettement. Et au même moment, en Europe, les Américains disent « Oui, non, mais vous ne pouvez pas vous subventionner directement vos entreprises. » Donc là, vous voyez, il y a ce double discours très important. Et effectivement, il va y avoir à ce moment-là une montée en puissance de toute la Silicon Valley et ce phénomène industriel-là.
Sur le substrat libertarien, qui est aussi une pensée qui va vers moins d'État, l'individu en premier, etc. On retrouve le néolibéralisme.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de pointer comment la décennie 80 de Reagan a une influence très importante chez nous en Europe. On connaissait Margaret Thatcher, mais c'était pas vraiment un modèle pour le continent à l'époque. Par contre, Reagan a très vite eu une forte influence, notamment chez nous avec le gouvernement Martens-Goll en Belgique. C'est aussi début des années 80. François Mitterrand qui fait le tournant de la rigueur en 83. Je vous propose d'écouter l'extrait d'une émission diffusée sur Antenne 2 en 1984. Et cette émission s'appelle Vive la crise. Et on y trouve Yves Montand, ancien sympathisant communiste, qui semble converti à ses idées néolibérales. Il appelle, vous allez entendre avec un certain paternalisme, les Françaises et les Français à se prendre eux-mêmes en main.
La crise ? Quelle crise ? Tout le monde en parle autour de nous comme d'un désastre. Bah, avouez pourtant que ce désastre-là n'est pas spectaculaire. Bah, je veux dire, comparé avec ce qui se passe ailleurs dans le monde. Chez nous, les choses n'ont pas l'air catastrophiques. Pour la plupart des gens, la crise, ce n'est encore qu'un mot. Voyez-vous, je ne sais si nous vous avons convaincu, mais moi, je retire une idée de tout ça. C'est que finalement, tout ce qu'on peut dire ou tout ce qu'on peut faire, en définitive, c'est vous. Et vous seul qui trouverez la solution. Il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a pas de super caïd, il n'y a pas de superman. C'est vous, prenez-vous par la main, sachez ce que vous voulez, demandez-le, voyons ce qu'on peut faire et avancez. Alors, où on aura la crise ? Où on sortira de la crise, et dans les deux cas, on aura ce qu'on mérite. Bonsoir et à bientôt.
Voilà, 84, c'est aussi des années tapis, etc. En France, Isabelle Ferras, c'est aussi un modèle culturel comme ça, qui semble déferler sur l'Europe après les États-Unis.
Absolument. Et là, évidemment, maintenant, ça a été quand même bien documenté. Les sciences sociales ont bien montré combien il y a là la construction de ce qui, en fait, ressemble à l'aboutissement du libéralisme. Et le libéralisme, il est fondé dans cette idée géniale et émancipatoire que les droits de l'individu doivent être premiers, ils sont fondamentaux, et on ne peut pas, au nom de quelques théories supérieures, sacrifier l'individu. Mais quand on en arrive là, évidemment, on sent bien que c'est complètement aussi une sorte d'aberration, parce que nous sommes, nous les êtres humains, des animaux sociaux, et nous sommes le produit de toute une construction sociale, un réseau social, qui fait que nous ne sommes évidemment jamais un individu seul.
Avec Kenneth Bertram, on a l'impression qu'il n'y a plus d'alternative. À ce moment-là, dans les années 80, c'est le fameux « there is no alternative », le TINA, prononcé par Margaret Thatcher. Mais c'est vrai que tous les États européens semblent un peu suivre.
Il y a cette tendance, quand on la regarde de très loin, hein, c'est vrai qu'on a cette tendance de dire, finalement, on va aller vers une forme d'orthodoxie budgétaire, on va essayer de compresser les dépenses, on va essayer de maximiser ou d'optimaliser les recettes fiscales. Mais plus on regarde de près, plus on se rend compte qu'il y a quand même des formules et des démarches différentes. Tout à fait. Oui. Mais c'est vrai qu'on voit, et c'est là que peut-être les années 80 doivent en effet nous interpeller, on voit ce changement de récit. On voit ce changement de récit qui, comme le résume quelque part Yves Montand, dit « l'État ne peut pas tout ». L'État ne peut pas tout, et donc c'est à vous de tirer votre épingle du jeu, c'est à vous de mener votre barque. On a vraiment affaire à un nouveau consensus, ou en tout cas la construction d'un nouveau consensus, aussi bien dans des partis de gauche qu'à droite, qui consiste à dire, en effet, aidez-vous et le ciel vous aidera, comme on disait au 19e du côté des catholiques. Et donc on a un peu cette dimension-là, et on voit que ce logiciel est adapté, et a plutôt adopté aussi du côté de la gauche, au nom, encore une fois, des impératifs budgétaires. Et c'est clair que ce qui va se passer à la fin des années 80, notamment avec Maastricht et d'autres éléments beaucoup plus régulatoires en matière d'orthodoxie budgétaire, vont aller dans ce sens-là, dans le sens vraiment d'un État de plus en plus compressé, où il faut vraiment vérifier chaque fois où on en est avec les critères budgétaires.
Isabelle Ferras, vous vouliez réagir ?
Oui, et là, une des conséquences de cela, c'est par exemple le fait qu'on va s'enfoncer en Europe dans le chômage de masse à partir des années 80, et que va monter en puissance l'idée que le chômage est une responsabilité individuelle. Alors qu'on le c'est, là on vient de décoder une partie du logiciel, mais évidemment en voulant absolument faire de l'inflation le premier combat, eh bien la variable d'ajustement, c'est évidemment l'emploi, donc le chômage. Et aujourd'hui, aux États-Unis, on est de nouveau dans ces discussions-là, comme en Europe, avec l'austérité.
Alors Isabelle Ferras, il y a un dernier point qu'on doit évoquer. Vous êtes sociologue, votre thème de recherche principal c'est l'entreprise, qui est une des côtes saillantes de ce récit né des années 80. Vous interrogez dans votre dernier livre la conception perception actuelle de l'entreprise et de l'économie. Qu'est-ce qui a changé dans ces années 80 du point de vue de la conception de l'entreprise ?
Eh bien, donc, cette financiarisation, pour le dire vite, elle a extrémisé, en quelque sorte, une situation qui est là, bien au cœur, disons, de l'histoire du capitalisme, qui est qu'une entreprise, évidemment, elle doit faire des profits. Mais elle a complètement tiré ça comme la seule et unique chose dont doit se préoccuper l'entreprise. Et en cela, on est toujours là-dedans. Enfin, en fait, depuis les années 90, la réaction est quand même venue, je pense, assez rapidement, dans le sens où les gens qui sont dans le monde de l'entreprise, les travailleurs, les patrons d'entreprise, ils savent bien qu'une entreprise, ça n'est pas et ça ne peut pas être qu'une sorte de véhicule qui se préoccupe de son retour sur investissement. Parce qu'une entreprise, c'est motiver les gens tous les jours, c'est donner du sens à ce qu'on fait. Ça, c'est la réalité de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'il faut distinguer l'entreprise de la structure juridique qu'est la société anonyme, qui est le squelette, si vous voulez, qui permet l'existence même de l'entreprise. Et en fait, à partir des années 80, donc, il y a cette doctrine Friedman. Donc, la seule chose dont il faut se préoccuper, c'est le retour sur investissement pour l'actionnaire. Greed is good. Mais la réalité d'entreprise, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on va voir monter en puissance de la responsabilité sociale de l'entreprise, du management participatif, toute une série de manières en fait de se saisir, d'offrir une réponse à ce problème qui est le problème de donner cet objectif fou qui est que l'entreprise devrait se préoccuper que de son retour sur investissement.
Alors, dans ce livre, vous appelez à une révolution de ce modèle. Kenneth Bertram, vous avez lu l'ouvrage d'Isabelle Ferreras. Vous pensez, vous aussi, qu'il faut au moins réfléchir, ouvrir une réflexion sur ce qu'est l'entreprise, et notamment le poids des travailleurs dans une entreprise. Parce qu'Isabelle Ferreras, en gros, elle dit qu'il faut démocratiser l'entreprise et que les travailleurs devraient avoir une voix, une voix au chapitre. Et co-décider de l'avenir de l'entreprise. Vous pensez que l'avenir de l'entreprise, ça passe par là, vous aussi ?
Alors, je suis d'abord, non seulement je pense qu'il faut réfléchir à d'autres manières de faire, mais j'en suis convaincu. Je trouve que le grand mérite de ce livre, comme beaucoup d'autres, puisqu'en effet, ils sont plusieurs à proposer ce genre de cadre, c'est qu'on a vraiment une panoplie de différents outils à nos dispositions pour repenser l'entreprise et pour le faire, non pas de manière théorique, de le faire de manière très pratique, avec l'implication, en effet, des parties prenantes, des travailleurs. Alors, ce qui est intéressant et ce qui est passionnant, moi, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est aussi le fait qu'il y a des désaccords parmi les différents auteurs, chercheurs qui sont... Et c'est stimulant. On voit très bien qu'il y a des tendances qui sont formées. Alors, le système bicaméral, qui est effectivement la formule préconisée par Isabelle Ferreras, est un système que je trouve vaudrait au moins la peine. Il faudrait au
donc
moins la peine de tester.
Donc, c'est un peu deux chambres au sein de l'entreprise, une chambre des travailleurs, une chambre des managers, si je résume.
Exactement.
Très fort.
Oui, oui. Je crois que voilà. Oui. Mais l'idée, ce serait de éprouvons ce concept-là. Et je sais qu'elle milite pour ça et je trouve qu'il faudrait tenter sa chance. Parce que, de manière très claire, le système tel qu'il existe actuellement fait beaucoup trop de dégâts. De dégâts physiques, moraux, quand on voit le nombre de burn-out aussi bien dans les entreprises dites publiques que les entreprises privées, je trouve que là, on atteint vraiment de plus en plus les limites du système. Donc vraiment, moi, je suis vraiment partant pour au moins proposer d'autres formules. Et l'avantage du livre, c'est qu'on le fait avec aussi, on voit avec beaucoup d'humour.
Puisque c'est une bande dessinée,
exactement,
enfin, un roman graphique, je ne sais pas comment on doit dire ça. Isabelle Ferreras, en 20 secondes.
En 20 secondes,
on arrive à la fin,
Parce qu'on venait juste de commencer. Donc, le grand enjeu, je pense, c'est de revenir sur cette dépolitisation qu'a réussi le néolibéralisme. Et c'est de comprendre que l'entreprise, c'est en fait une entité politique, c'est une structure de pouvoir, qu'il y a des gens qui sont gouvernés, ce sont les travailleurs. Et donc, il faut se poser la question de la rentrée dans l'histoire démocratique de l'entreprise pour ce qu'elle est comme entité politique. Et effectivement, de ce point de vue-là, si l'enjeu, c'est de comprendre comment, dans l'histoire, les révolutions démocratiques se sont passées, comment on est passé du despotisme d'une minorité, mais qui possédait les parts de les terres d'Angleterre, les lords, ou les parts des actions de la société, aujourd'hui un conseil d'administration, eh bien c'est par le bicamérisme, c'est en ça que c'est intéressant. Mais je ne plaide pas d'abord pour ça, je plaide pour comprendre que l'entreprise est une entité politique.
Repenser la structure, le fonctionnement de l'entreprise et le récit sur l'entreprise. Merci beaucoup. Kenneth Bertram, historien de l'économie à l'ULB, professeur à l'ULB, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci Isabelle Ferreras. Et on rappelle le titre de votre livre, Et patron pour une révolution dans l'entreprise. C'est paru chez, j'ai oublié.
Au Seuil.
Au Seuil. Eh bien voilà, c'est déjà disponible dans toutes les bonnes librairies.
Absolument.
Comme on dit, merci de votre participation.
Merci à vous.
Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce que nous faisons chaque semaine dans l'Histoire continue.
Avec les archives de la Sonuma et à la réalisation, Jonathan Rémy.
Une émission coordonnée par Il Minimalis.